D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. En guise d'introduction à cette émission, je voudrais donner un bref dictionnaire du dandysme selon mon idée. Le voici donc. Année. Si les années 90 ont été celles du dandysme au 19e siècle, au 20e, ça a été les années 80, période très différente. Quand en 1890, on respirait des lys tout en suivant d'un stylet de nacre des vers latins dans un antiphonaire du Moyen-Âge, le dandy 1980 affectait une froideur en noir et blanc. L'idéal était de feuilleter City Magazine en écoutant Kraftwerk. Le 21e siècle, qui barbote dans le populisme, ne semble pas encore avoir eu sa période dandy. Barbé d'Aurevilly, cet écrivain rouge et cambré comme une écrevisse, a publié le premier livre sur la question du dandysme et de Georges Brummel. Il y révèle, je cite, « l'impertinence somptueuse et l'impassibilité du dandy ». Nous comprenons que ce flegme étouffe une sensibilité et ses sarcasmes, les grincements de dents d'anciens petits garçons malheureux. Greta Garbo. Les femmes dandy sont rares, d'ailleurs Greta Garbo est à peine une femme, c'est la lune. Elle est pâle, plate et muette. Quand elle rit, elle penche la tête en arrière et son cou s'étire comme celui d'un cygne cherchant à attraper un croûton de pain. C'est-à-dire qu'elle ne rit pas, elle est en dehors de la vie. Greta Garbo a dit « Personne ne voudrait de moi, je ne sais pas faire la cuisine ». Very dandy. Impossible, le dandy ne peut être en aucun cas paysan, naturiste, sportif, écologiste, australien. Il ne peut pas supporter les chiens de chasse, les plages, la couleur orange, les formes rondes, la charcuterie. Nature. Évoquer la nature devant un dandy, c'est parler d'ail au diable. Saleté. Souvent, le dandy ne se lave pas. C'est parce qu'il s'adore. Tout ce qui émane de sa merveilleuse personne doit être conservé. Comme d'autre part, il est souvent littérairement impuissant, la crasse lui tient lieu de création. Quel est le secret professionnel du dandysme au XXIe siècle? À l'occasion de la publication du Dictionnaire du dandysme chez Honoré Champion et chez Bartilla, de la biographie et du journal inédit de Jean de Tinan, je reçois pour m'en parler l'éditeur de ces derniers livres, Charles Fica. Charles Fica, vous publiez Tinan, mais vous êtes aussi l'éditeur de Barbé d'Aurevilly, dont vous venez d'éditer les mémorandas complets. Et tout le monde pense que Barbé d'Aurevilly était pour le dandysme, parce qu'il a écrit le livre dont je viens de parler, du dandysme et de Georges Brummel. Or, il le raillait plutôt, non?
Oui, parce que la notion de dandysme est floue. Alors, il est vrai que la découverte de Brummel a été un choc hein, à l'époque du romantisme pour toute une partie de la société intellectuelle française et tous ceux qui se sont intéressés à ce mouvement ont eu aussi une passion, une affinité particulière en tout cas pour l'anglomanie. Et Brummel évidemment participait de ce mouvement et en était en quelque sorte l'archétype. Et ce qui est étonnant, c'est que tous les dandys anglais avaient un goût pour les modes qui venaient de France.
On est dans les années quoi?
Là, je dirais les années 1830, 1840, le début là. Là, on est vraiment au premier barbé, en quelque sorte.
Et c'est à ce moment-là que le mot s'introduit en France?
Oui.
Vers les années 1830. Donc. Alors, le dandy et le travail, et il rappelle volontiers que le mot travail lui-même vient de tripalium, du latin tripalium, qui était un instrument de torture à trois pieux. L'oisiveté est donc une grande caractéristique du dandysme. Est-ce que c'est possible au XXIe siècle où l'oisiveté signifie la mort sociale?
Tout dépend après des moyens dont on dispose, mais vivre au-dessus de ces moyens, c'est... Toujours au-dessus de ses moyens, c'est forcément un des traits du dandy. Donc, il faut affecter, en tout cas, cette oisiveté, ne pas paraître pressé ou affairé. Et le dandy, comme un homme libre, est celui qui a du temps devant lui.
C'est un rejet de la vie pratique?
Sans doute. Ça, c'est aussi un des traits. C'est quelqu'un qui peut se consacrer à soi, à cultiver son moi, l'analyser profondément, prendre du temps pour se constituer une toilette des plus adaptées et qui servira en quelque sorte d'armure pour affronter les épreuves de la société.
Alors, vous venez d'aborder un point important, Charles Fica, qui est la coquetterie. C'est-à-dire que souvent, le dandy est coquet, mais en tout cas, Barbé de Révilly nous disait que sa coquetterie doit être discrète. Et la discrétion peut même être une forme d'ostentation. Et vous, qui êtes un spécialiste du rock, je voudrais, où on voit tant de gens, de chanteurs outrageusement habillés qui se croient des dandys, comme le défunt David Bowie, diriez-vous que les rockers sont des dandys ou des barbies?
Des deux, parce que le Mick Jagger qui se déhanche sur scène n'est pas du tout le même dans le monde aussi. Et il a aspiré à fréquenter la haute société anglaise et tout ce monde, toute cette faune des concerts rock le fatiguait beaucoup. Il peut y avoir des...
Ça veut dire qu'il avait une double posture ?
Des contrastes. C'est un châtelain qui aspirait à un certain mode de vie et il a souhaité fréquenter l'aristocratie anglaise et dans une certaine mesure, il y est parvenu. Vous parliez de la discrétion. Évidemment, le dandy se fait remarquer peut-être par son originalité, son excentricité, mais en même temps, il est celui qui cherche à se fondre dans la foule, à être le plus anonyme. C'est le clandestin aussi dans la société. Voilà, c'est pas pour rien, par exemple, qu'un Baudelaire a traduit ce texte d'Edgar Poe, l'homme des foules.
Donc, ça voudrait dire que les gens qui se déclarent eux-mêmes dandy, c'est plutôt une maladie qui s'apparente à l'urticaire, car le dandy ne dit jamais qu'il est dandy.
Sans doute.
Tous ces rockers qui se disent dandy n'en sont pas.
Mais se disent-ils vraiment dandy non plus? On peut discuter. En tout cas, ils en affectent la posture.
Voilà,
oui,
ils en affectent la posture.
La recherche, mais...
Bowie, par exemple, je vais me faire assassiner par Clotilde Pivin qui réalise l'émission, mais Bowie avait ça. Bowie avait cette espèce d'affectation de dandysme qui était au fond le contraire de ça, non?
Oui, mais alors Bowie a aussi été un caméléon qui a commencé comme mode aussi au début, donc dans les années 60.
Ça veut dire qu'il avait une petite cravate et...
Oui, il se cherchait sous le nom de David Jones. Il a d'ailleurs enregistré plusieurs disques sous ce nom avant de se créer le personnage... de David Bowie.
Alors, je parlais tout à l'heure des femmes dandy, oui. Et pour rester dans le rock dont vous êtes encore une fois un spécialiste, Charles Fica, est-ce que Marianne Faithfull, qui dans ses mémoires raconte qu'elle adorait lire à rebours de Huysmans, peut être considérée comme une femme dandy?
Dans sa période punk, oui. Peut-être pas la jeune Marianne Faithfull de 65-66, quand elle chantait, par exemple, ce grand tube des Rolling Stones, Last Years Go By, mais la Marianne Faithfull de Broken English, de Ballad of Lucy Jordan, oui, certainement. Tout à l'heure, vous avez cité le nom de Greta Garbo. Et Greta Garbo, dans La Reine Christine, donc une femme habillée en homme, qui se dissimule, ça, c'est vraiment une femme dandy, un peu comme Mademoiselle de Maupin dans le roman de Théophile Gautier. Là, on touche à quelque chose, à une essence du dandysme féminin.
Ça veut dire que c'est une ambiguïté, comme aussi oui. L'a été Marlène Dietrich qui s'habillait en smoking.
Oui, de même que le dandy a aussi une ambiguïté vers la féminité aussi.
Donc le dandysme, c'est l'effacement des frontières?
Peut-être que ça rejoint en cela des problématiques contemporaines. Oui, en effet, c'était quelque chose de très particulier, de très ciblé, mais qui rejoignait aussi des mythes très anciens.
Vous venez de parler des punks et de dire que les punks étaient des dandys, donc c'était probablement une forme de dandysme inversé, c'est-à-dire que l'excès de la bière au litre remplaçait le champagne et la crasse remplaçait le peigne en ivoire.
C'est-à-dire que là, dans les relations entre le dandysme, le punk ou plus généralement le rock, c'est le souci de la tenue vestimentaire. Et ça apparaît déjà... dès la fin des années 50, début des années 60, et le mouvement moderniste anglais qui touche toute une partie de la jeunesse, des jeunes gens qui sont capables de mettre toute leur paye de la semaine pour s'acheter un beau costume bien taillé, des chaussures italiennes, installer plusieurs rétroviseurs sur leur scooter. C'est une forme de dandysme populaire généralisé à des milieux qui ne sont pas les milieux les plus huppés de la société, mais il y a ce recherche du style. Tout à l'heure, vous avez dit que le dandy était sale, mais il y a, chez certains dandys, une recherche de l'hygiène. Baudelaire, dans ses journaux intimes, donc dans Les Fusées, dans Mon cœur mis à nu, où il parle très souvent des caractéristiques du dandy, eh ben, insiste aussi sur cette hygiène, sur cette morale personnelle hein, qu'on peut voir au sens propre, mais aussi au sens figuré. Et chez ces jeunes Anglais, du début des années 60, on retrouve ce même souci. Alors évidemment, les punks aussi étaient très soucieux de leur apparence extérieure, et il s'agissait d'innover, d'apporter quelque chose de nouveau contre des grands frères ou contre des parents qui incarnaient déjà la pesanteur du conformisme.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites et qui irait dans le sens du dandysme comme effacement des frontières, c'est que ça n'est pas un phénomène social, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que, comme au fond vous le disiez à propos de Mick Jagger, qui est devenue une vieille dame bourgeoise qui veut fréquenter les duchesses, c'est pas une chose de la haute société, et qu'on peut être dans un milieu populaire anglais et être aussi un dandy.
Ah oui, sans doute. Et même, c'est une façon d'accéder au salon. Parce que il y a une autre ambiguïté chez le dandy. C'est à la fois quelqu'un qui veut briller en société par sa toilette. C'est quelqu'un qui a aussi un art de la conversation, qui s'exprime avec brio, plein de provocations, d'excentricité. Mais c'est aussi quelqu'un qui recherche et qui cultive la solitude, qui vit reclus. Par exemple, dans le dictionnaire du dandysme, une longue entrée est consacrée à Eugène Delacroix. Et Delacroix avait une posture qu'on pourrait qualifier d'aristocratique, de retrait par rapport au monde, par rapport au salon, par rapport aux grandeurs de ce monde. Et il était dans son atelier consacré à son art, avant tout.
Et au XXIe siècle, est-ce que vous direz, puisqu'après tout, le rock est une affaire de vieux, c'est une affaire de 1950 et qui est un peu finie, est-ce que vous diriez que maintenant, dans la musique en tout cas, les dandys, ça ne serait pas les rappeurs ? Aussi ont une grande coquetterie, qui ont des recherches de langue,
qui ont des codes vestimentaires très particuliers, oui, et qui répondent à une logique, oui, dans une certaine mesure, ils sont aussi dans une logique de dandysme avec ses lois, ses règles, et qu'il faut aussi respecter.
Nous allons maintenant entendre A Little Death Around the Eyes, un peu de mort autour des yeux, qui est extrait de l'album Grace Wasteland de Pete Doherty, qui peut être une sorte de dandy qui boit de la bière en même temps, comme il est père de famille, ça n'est pas très dandy, vous jugerez.
Your boyfriend's name was Dave. I was bold and brave, and now you're mine. You cook and clean and sew when I tell you to, when I ask you to. If I ask you to, then I want you to. You don't need telling twice for me, though. Don't need telling twice for me. You know where's the trousers? No one wears the trousers.
There's a lot
you want. So break free. Yeah, well, you never break free of me, young. Your boyfriend's name was Dave. I was bold and brave, and now you're mine.
Charles Ficat, dans la deuxième partie de cette émission, je voudrais que nous parlions du dandysme en fonction d'un écrivain d'il y a plus de 100 ans, d'il y a 120 ans, et dont la gloire, si elle est étroite, est quand même très tenace, et qui est Jean de Tinan, dont vous éditez une biographie et des textes en ce moment. Quelles étaient les dates d'abord de ce Jean de Tinan et qui était-il ?
Jean de Tinan était un jeune homme issu d'une famille d'aristocratie française, né en 1874 et mort en 1898. Il a eu une vie très brève, donc 24 ans, et il a traversé le monde des lettres comme une étoile filante. Cependant, il a trouvé le temps de composer plusieurs œuvres, de fréquenter des artistes importants de son temps, et de laisser également une sorte de mythe littéraire dont nous avons pu mesurer avec... une certaine satisfaction aussi, la persistance. Il y a encore beaucoup de gens qui admirent et qui apprécient cette œuvre délicate, sensible, à la fois pleine d'ironie et qui touche encore un lectorat. Alors il faut.
Qu'est-ce qu'il a écrit ? Il a très peu écrit. Il a écrit deux romans, je crois.
Donc il y a plusieurs livres. Il y a Penses-tu réussir, qui est son roman le plus célèbre, qui met en scène un personnage qui s'appelle Raoul de Valonge, il y a Émienne, il y a La vie amoureuse de Ninon de l'Enclos, il y a des chroniques, ce qui s'est appelé les noctambulismes, il y a une chronique du règne de Félix Faure, il y a différentes œuvres.
Ce qu'il faut dire, c'est que depuis la mort de Tinan, ce sont des livres qui sont très régulièrement réédités. Il est connu par 100 personnes, mais il est connu pour des siècles. Parce
oui,
que
c'est un auteur un peu de...
très secret.
Stendhalien de Happy Few. Et qui se transmettent comme un mot de passe ces livres et de génération en génération son nom survit. Alors il faut bien sûr mentionner le travail de Jean-Paul Goujon parce que c'est quand même
qui
lui
est le biographe.
Le biographe de Jean de Tinan là dont nous avons publié avec Constance de Bartilla la nouvelle édition d'une biographie puisque une première version avait paru en 1990 mais tellement de documents sont apparus depuis qui permettent de compléter le puzzle qu'il fallait le resituer aussi dans son époque pour accompagner la parution de son journal intime, en tout cas des deux années 1894 et 1895, car son journal
qui est inédit, n'est-ce pas ?
Voilà, il l'a continué, mais pour le moment nous sommes encore à la recherche du manuscrit. Voilà.
Alors, pour dire qui était ce Jean de Tinan, un charmant poète du Mercure de France qui était Tristan Clinquesort a dit de lui, et je le cite, « Un jeune et parfait dandy légèrement voûté, aux mains amaigries, au charmant visage un peu allongé. » Il a d'ailleurs un type de physique qui a l'air d'un stéréotype du dandysme. Est-ce que d'ailleurs il peut y avoir des dandys bouffiers ?
Tout est possible. Dans la mesure où il n'y a pas de règles non plus, et concernant le dandysme aussi.
Vous en connaissez dans l'histoire des dandys bouffiers, vous ?
Ben, Brummel est un peu empâté quand même. Oscar Wilde, qui était aussi un parangon du dandysme, il a fini aussi un peu enveloppé.
Jean de Tinan arrive à Paris et il faut dire qu'un des grands intermédiaires de beaucoup d'écrivains a été, pour lui comme pour d'autres, Pierre Louys.
Oui, et c'est pas étonnant non plus que ce soit Jean-Paul Goujon qui écrit cette biographie, car il est aussi un des spécialistes les plus reconnus de Pierre Louys. Une œuvre considérable, avec des pans secrets, des érotiques, et puis des romans, peut-être de facture aujourd'hui un peu plus classique.
Il faut dire que Pierre Louys connaissait Gide, Valéry, connaissait le monde entier.
Okay, oui.
Et comment est-ce qu'il a fait la connaissance de Tinan ?
Les filles Heredia. Et donc, tous ces gens-là se fréquentent. On se rend compte, dans la lecture du journal inédit de Jean de Tinan, qu'il fréquentait beaucoup les bars, le café Harcourt, le bal Bullier. On est encore dans une vie de brasserie. Et la vie littéraire aussi se joue beaucoup dans les cafés, et ce qui ne sera plus tout à fait le cas au XXe siècle. Hein.
Là, on est vers 1895, comme ça.
Oui, exactement. Et Tinan rencontre aussi Debussy, il rencontre Mallarmé... il est Rops, Péladan, Et il, comment nous, est-ce il nous des grandes amitiés aussi avec Lebé, André Lebé, qui est aussi un ami de Paul Valéry. Bon, en fait, tout ce monde-là gravite ensemble, finalement, dans la vie littéraire. On est dans le Mercure de France naissant.
Et donc les dandys, qui sont souvent paresseux, qui aiment l'oisiveté, lui montre un peu le contraire, puisque finalement, très jeune, il travaille, il publie déjà un premier livre.
Oui, mais en même temps, ces personnages, ce qu'il décrit dans « Penses-tu réussir », c'est une...
Qu'est-ce que c'est ce livre « Penses-tu réussir »
C'est les états d'âme aussi d'un jeune homme. Et ce journal serait en quelque sorte un peu le laboratoire de son œuvre à venir. C'est les bars, les cocktails, les flirts aussi avec des jeunes filles en fleurs qu'on retrouvera plus tard chez un romancier célèbre. C'est ce monde aussi de la belle époque qu'il décrit, de la vie parisienne, au tournant du XXe siècle.
Eh bien, un personnage important dans la vie de Jean Tinan, donc, qui est ce jeune homme qui fréquente les bars, les brasseries et qui publie un livre remarqué, ça a été une espèce de dandy fasciste et qui était Maurice Barrès.
Eh bien là, vous mettez le doigt sur un sujet très important. J'ai été un peu surpris de voir aussi qu'il n'y avait pas d'entrée Barrès dans le dictionnaire du dandysme. Parce que le culte du moi, c'est-à-dire cette réunion de cette trilogie de trois romans, Sous l'œil des barbares, Un homme libre et Le jardin de Bérénice, constitue un bréviaire d'une forme renouvelée du dandysme après Baudelaire, Barbet d'Aurevilly, Brummel et Byron, en quelque sorte. Et c'est un dandysme aussi centré sur son moi, mais c'est pas pour une auto-glorification. C'est le culte du moi, c'est s'analyser le plus possible pour sentir le plus possible. Et évidemment, Tinan est marqué par les écrits de ce jeune Barrès,
qui sont les écrits donc du jeune Barrès et de la période avant le nationalisme, avant Boulanger.
Ah oui, on est en 1888-1891, mais on ne mesure plus aujourd'hui le rayonnement qu'a pu avoir ce jeune Barrès auprès de la société de son temps. Paul Bourget, qui lui bénéficie d'une entrée dans le dictionnaire du dandysme, parraine en quelque sorte ce jeune arrivant dans le monde des lettres. Et des gens aussi différents que François Mauriac, Léon Blum, mais le Léon Blum de la Revue Blanche, hein, seront littéralement fascinés par le culte du moi, par cette attitude aussi de désinvolture, d'introspection.
Désinvolture vraiment, parce qu'en même temps, ce sont des livres d'un narcissisme monstrueux.
En même temps, c'est sous l'œil des barbares. C'est-à-dire, c'est une forme de distance, désinvolture à l'égard de la société, à l'égard des convenances. On se forge aussi sa propre morale, en quelque sorte. Mais donc, là, on rejoint aussi un dandysme baudelairien qui comporte de très hautes exigences. Et le journal de Jean de Tinan illustre cette météorologie de l'âme, en quelque sorte, où sa sensibilité est exacerbée et ce qu'il a appelé ses sentimentalismes sont décrits, mais alors vraiment par le menu. Et évidemment, il connaît des déconvenues ou des chagrins d'amour. Et c'est noté au plus près. Alors évidemment, l'art du journal intime était antérieur, hein, et un Stendhal aussi a pu décrire. Mais il y a une attitude aussi proche du dandysme chez Stendhal.
Mais d'ailleurs,
vous connaissez bien.
Oui, j'ai publié dans la revue du Stendhal Club un dessin inédit de Stendhal qui était un dessin de dandy, dessiné un dandy.
Et ne pas oublier non plus que ce jeune Barrès admirer aussi beaucoup Stendhal, et que c'est lui qui préfacera une édition en trois volumes de La Correspondance de Stendhal.
Alors justement, on parlait, vous, dans la première partie de l'émission, des rockers et des punks, et il y a une forme d'excès dans le dandysme, d'excès aussi dans la coquetterie d'ailleurs, et à propos de Barrès qui est allé vers le fascisme politiquement, est-ce que vous pensez qu'il y a dans la politique du dandy aussi un excès ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible qu'un dandy au XXIe siècle soit, mettons, membre du Parti Socialiste ou des Républicains ? Ça me paraît impossible. On a l'impression que les dandys vont dans un excès ou dans l'autre, y compris en politique.
Mais oui, ils sont dans un excès du moi, dans une exaltation de la personnalité telle que... il n'y a plus de frontières et de limites. Après, la question de savoir si Barrès, qui meurt en 1923, a été fasciste, disons qu'il a été chantre du nationalisme.
Je réponds.
Bon, là, par exemple, un autre dandy qui a eu aussi des fréquentations sulfureuses, c'est D'Annunzio, qui est un wagnérien, nietzschéen, dans les années 1880-1900, avec ses romans L'Enfant de Volupté, Le Feu.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc très simple avec D'Annunzio ? Est-ce que D'Annunzio n'était pas un con ?
Alors ça, c'est une autre question.
Mais non, mais c'est important. Parce qu'en fait, ce grand n'importe quoi n'est pas raisonné. C'est pas comme chez Baudelaire, on peut pas comparer quand même.
Oui, mais il a entretenu des relations aussi très conflictuelles avec Mussolini. Il sera très, très fortement, D'Annunzio. Et bon, il meurt en 37, je crois. Donc, il aurait très certainement, compte tenu de sa dernière évolution, condamné ce qui se passera en Italie dans les dernières années du régime mussolinien. Mais en effet, les dandys peuvent mal tourner. Par exemple, un dandy qui figure aussi dans le dictionnaire, est-il dandy ? Alfred de Musset, je sais que vous l'appréciez beaucoup. Son dandysme n'est pas celui de Byron, ni celui de Baudelaire. On sait qu'il finit, lui, dans d'autres excès, liés surtout à la boisson.
Oui.
Voilà. Et quel dandy fait-il ?
Mais en tout cas, on reste dans cette idée que c'est un excès.
Ouais, sans doute, mais après, c'était aussi une des définitions du dandy de Barbey de Rivilly. Il faut savoir jusqu'où aller trop loin.
Charles Ficca, il y a une question très importante pour le dandysme qui est l'attirance vers l'échec. Vous parliez de Musset et de Baudelaire qui sont un double exemple intéressant de très grande ambition et en même temps de précaution d'intériorisation d'échec en quelque sorte.
Il y a une esthétique de l'échec. C'est ce que Leonard Cohen, un rocker, appellera dans un roman « Beautiful Loser ». Aussi, et il y a quelque chose de sublime. Il y a des défaites dans l'histoire qui sont plus grandes que des victoires. Et sans doute, cela participe de cette religion de la beauté que de finir mal.
Est-ce que vous pensez que au XXIe siècle, au début du XXIe siècle où nous sommes, il y a une nouvelle forme de dandysme est apparue ? On a parlé des rappeurs tout à l'heure. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est un comportement qui est disparu ?
Ah non, parce qu'il se renouvelle, il se métamorphose. Alors après, il faut le traquer. Quand Baudelaire, dans Le peintre de la vie moderne, dans le chapitre consacré au dandy, le qualifie de dernier éclat d'héroïsme. Voilà, c'est ce dernier éclat d'héroïsme, où se trouve-t-il aujourd'hui ? Et ça, c'est difficile d'avoir la réponse. Et alors, sans doute, gît-il caché quelque part, mais il faut le traquer, et c'est comme un merveilleux qui nous entoure, qui nous enveloppe, mais il faut avoir les yeux pour le déceler.
C'était Secret professionnel, le 220e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel, du colossal dans l'art contemporain. Réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Abgral, prise de son Éric Villenfin, recherche INA Linda Simon. Dans un instant, Joël Gaillot, une saison au théâtre.